change parce que la question finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de transformer les sujets normaux en malades? Et évidemment, c'est la question majeure de la surmédicalisation. De la surmédicalisation, c'est le rêve de Snow dont on a déjà parlé et notre maître à tous. Comment réussir à transformer des sujets normaux en malades ou en tout cas en patients? C'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, on peut effectivement le faire, et on y reviendra au cours de ce colloque, en étendant les limites d'un certain nombre de pathologies. C'est vrai, par exemple, de l'hypertension artérielle, c'est vrai du cholestérol et de l'hypercholestérolémie réelle ou supposée. C'est vrai aussi par la transformation de comportements normaux en pathologies. D'autant plus qu'il y a derrière ça un médicament à écouler. C'est l'exemple des troubles du développement avec l'hyperactivité de l'enfant. C'est une catastrophe aux États-Unis. Ça devient, mais heureusement relativement moins, une catastrophe en France. Par le remplacement, dans l'esprit des gens, de phénomènes physiologiques par une pathologie. Pendant des années, c'est moins vrai, un petit peu moins vrai. Mais dans les années 60-80, la ménopause est une maladie terrible qu'il fallait traiter durement, ce qu'on a fait avec des catastrophes, du cancer du sein en pagaille, et pas des petits cancers du sein anodins, comme heureusement c'est fréquent, mais des saloperies. Merci cette transformation. Et puis on s'est posé la question, est-ce que il n'y a pas une médicalisation du mal-être. Le mal-être. Là, la suivante, chère. Le mal-être, toute la vie, ça entraîne obligatoirement des moments de bien-être, heureux. J'espère qu'on est tous heureux de se retrouver certains. Et puis des moments de mal-être où ça ne va pas. Quoi. Est-ce que le mal-être, c'est la maladie? La maladie, ce n'est pas une identité en soi. Son identification est médicale, c'est l'ensemble des conséquences ressenties, subjectives ou observables, objectives, d'une perturbation de la vie normale par atteinte d'un organisme. C'est une définition qu'a donnée Hugo Rousset, qui est un interviste lyonnais, et qui est à peu près adoptée par tous. On peut avoir une maladie sans se sentir malade, enfin, évidemment tout le monde le sait, du moins pendant un certain temps. Et puis aussi, on peut se sentir malade sans avoir la moindre maladie. Les anglo-saxons différencient l'illness et le disease. Les Français ne savent pas faire cette distinction. Diapositive suivante. Alors, le mal-être sociétal se traduit par un certain nombre de symptômes. Et ces symptômes ont créé des époques, eh bien, ont donné naissance à des maladies. Ces maladies sont le fruit de l'époque, mais sont aussi le fruit des médecins de l'époque qui, confrontés à ces symptômes de mal-être, ont essayé de regrouper. Et en fait, ces maladies sociales qui ont changé de nom, mais pas de symptômes, ou peu de symptômes. Diapositive suivante. Le 19e siècle, c'était l'hystérie. Alors, toutes ces maladies sociétales, dans une société patriarcale, va atteindre évidemment davantage les femmes. Quand on regarde ce que dit un traité de 1907, l'hystérie, c'est une affection nerveuse dont l'essence est une augmentation pathologique de l'excitabilité et de la sensibilité du système nerveux et de la vie psychique et affective. C'est pas mal, hein, comme réflexion. Elles, les malades, ressentent des douleurs dans les muscles et dans les os et dans le ventre, des contractures de toutes formes et de tous degrés, des crises arrivent au cou selon leur intensité pour aller jusqu'aux célèbres crises de Charcot et du grand cirque de la Salpêtrière de l'époque. En 1974, Henri Péquignot avait édité un traité de pathologie médicale Et son collaborateur Tissot disait, sous leur grande forme, de crise paroxystique, elle, l'hystérie, n'existe pratiquement plus dans nos cultures. On est dans les années 70. Les aspects mineurs sont plus fréquents avec des syndromes fonctionnels durables, des appareils de la vie de relation. Reste à se demander si les frontières entre hystérie, hypochondrie et troubles psychosomatiques existent. Bien, on avance un peu. Donc, l'hystérie a laissé la place à la spasmophilie. Les plus anciens d'entre nous ont lu leur colloque, leur cohorte de malades spasmophiles. En 1933, c'était la tétanie et la spasmophilie. Et le traité de pathologie interne dit, dans les tétanies latentes, les crises de contracture manquent, et vous voyez qu'entre l'hystérie contracture et la tétanie contracture, on est dans la filiation directe. Donc, dans les tétanies latentes, une crise de contracture manque, seul le tempérament tétanique est retrouvé, des spasmes viscéraux localisés, une irritabilité, on donne à cet état le nom de spasmophilie. En 1964, il est écrit, toujours dans le traité de Piquignot, l'interrogatoire ne retrouve pas d'accès hypertonique, mais des lipotimies, des migraines, des manifestations névrotiques. C'est toujours exactement la même symptomatologie. Et dans le traité de Godot en 2004, il y a 17 mots. Point final sur la spasmophilie, où des crises dites de spasmophilie correspondant en fait le plus souvent à des attaques de panique. C'est bon ? Ah, la spasmophilie, c'est pas assez bonne, vive la fibromyalgie. Alors, en 2004 également, la description de la fibromyalgie, le plus souvent des femmes, fréquemment jeunes, qui présentent des douleurs articulaires ou péarticulaires, qu'elles décrivent comme plus ou moins généralisées, le plus souvent fixes, parfois vagabondes. Elles résistent aux anti-inflammatoires dans ce qui revient. On décèle souvent des douleurs palpées, des critères de diagnostic ont été élaborés, etc. Un bon nombre, on dessine de Swastek, des multiples électromyogrammes qui les font taxer de spasmophiles. Les indices d'un interrogatoire approfondi révèlent les indices d'un état neurotique généralement de type hystérique. Donc voyez, là, dans ce chapitre, la liaison entre fibromyalgie, spasmophilie, hystérie est écrite noir sur blanc parce que les symptômes sont globalement les mêmes, le terrain est globalement le même. La fibromyalgie, eh bien, Françoise Laroche, dans une étude qu'elle a publiée au début de l'année dans la revue Rhumatique sur 5 collaborateurs de ce boulot, eh bien, on va étudier 4516 personnes se considérant comme atteintes de fibromyalgie, 93% de femmes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 48 ans, un délai diagnostique moyen, des comorbidités, très peu de maladies rhumatologiques, 4% de polyarthrite rhumatoïde, 5% de spondyloarthrite ankylosante, 5% de syndrome de Gaucheraud, mais 62% de troubles cognitifs, 52% d'anxiété, 48% de dépression. Voilà, on est toujours dans la maladie. Alors, aujourd'hui, tout va plus vite. Avant, on mettait un demi-siècle pour changer de dénomination. Maintenant, on met une dizaine d'années, on va passer de la fibromyalgie à la maladie de Lyme. La positive suivante. La maladie de Lyme chronique, vous savez qu'en juin 2018, la Haute Autorité de Santé a commis ce forfait en validant la notion de symptomatologie polymorphe après possible morsure de tic. Et c'est fabuleux qu'une autorité nationale, gouvernementale, ose faire un truc pareil. Moins de 15 jours après, l'Académie de médecine est quand même rentrée dans le grand cadre. C'est pas possible de faire des choses pareilles. Et en 2019, à date de à regarder sur un très très grand nombre de sujets états-uniens, moins de 10% des patients se présentant avec une maladie de Lyme chronique ont une confirmation du diagnostic.
Il y a une étude française qui montre exactement le même résultat.
En fait, tous ces sujets qui au travers des âges ont présenté des plaintes souvent semblables mais toujours sans substrateur organique démontré, ont été prises en charge par les médecins pour répondre à leurs réelles souffrances, parce que ces souffrances existent. Même si souvent, ça n'était que la traduction d'un être sociétal. Alors la question que je me suis posée, que je pose toujours, est-ce qu'ainsi, on a limité ou étendu la résistible ascension du domaine de la pathologie? Alors on va voir dans l'atelier, dans les présentations qui vont arriver maintenant, d'autres exemples, et la discussion permettra d'améliorer les choses encore.